Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau webinaire. Donc, le pôle innovation et numérique du MEDEF a proposé plusieurs webinaires de découverte de technologies nouvelles et potentiellement porteuses de disruption. Récemment, nous avons fait un webinaire sur les technologies immersives. N'hésitez pas à retourner sur le site de l'Académie qui est très bien fait. Merci Céline pour réécouter sous format de podcast les présentations. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nel Albro. Est-ce que je prononce bien Nel, votre nom? Voilà, qui est coordinateur national de la stratégie quantique. Donc, on va revenir sur votre rôle et sur ce qu'est cette stratégie. Voilà, je me permets de rappeler juste à nos participants que vous pouvez suivre nos activités aussi via le MEDEF Hebdo, où il y a souvent une rubrique numérique. Vous pouvez bien sûr m'adresser à moi ainsi qu'à l'équipe toutes les questions que vous aimeriez voir traitées dans des prochains webinaires, puisqu'on est à l'affût des sujets qui vous intéressent. Et la commission numérique donc du MEDEF est aussi à votre disposition avec les outils que nous avons mis en place pour répondre à vos questions. Et je souligne aussi par la même occasion, puisque j'ai la chance d'avoir un auditoire, que nous travaillons actuellement sur de nombreux sujets, dont les sujets cybersécurité, dont je rappelle qu'ils sont malheureusement souvent à l'actualité de nos entreprises. Alors, je me tourne vers Nel. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans votre agenda extrêmement chargé en ce moment pour venir nous parler de la stratégie nationale quantique. Alors, coordinateur d'une stratégie, en quoi cela consiste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Et puis après, vous nous présenterez peut-être en quelques mots, effectivement, quelle est la stratégie que la France s'est donnée, sachant qu'elle a déjà 2 ans et que le quantique défraye de plus en plus l'actualité. Nous avons eu l'immense honneur et grande fierté d'avoir un prix Nobel attribué à l'un de nos concitoyens l'année dernière, Alain Aspect, pour ses recherches dans le domaine. Alors, sans rentrer dans des précisions trop technologiques ou trop compliquées, je sais que vous avez la capacité de nous expliquer ça avec des mots très simples, donc je vous tends le micro. Stratégie quantique, coordinateur national, que pouvez-vous nous dire sur ces sujets?
Donc, merci beaucoup. Effectivement, donc la stratégie nationale quantique a été lancée par le président de la République il y a 2 ans. Donc moi, aujourd'hui, je coordonne cette stratégie dans les services de la Première ministre au secrétariat général pour l'investissement. Donc le secrétariat général pour l'investissement est l'administration qui s'occupe du déploiement du plan France 2030. Et la stratégie nationale quantique s'inscrit dans le cadre de ce grand plan d'investissement à 54 milliards. La stratégie française, donc, dans le quantique, elle relève d'un investissement, donc, de l'ordre de 1,8 milliard, dont 1 milliard pour l'État, de la part de l'État. Donc, effectivement, le rôle du coordinateur, alors, il y a un aspect opérationnel qui consiste à ouvrir les guichets de financement pour la recherche, pour la formation, pour l'innovation à destination des établissements publics, mais aussi des entreprises, qu'elles soient start-up, PME, ETI ou grands groupes. Alors, ce ne sont pas les mêmes règles de financement, ni le même type de dispositif qu'on déploie. J'y reviendrai un peu plus tard. Et il y a un rôle de coordination entre les différents ministères et entre les différents opérateurs de l'État, au-delà du financement, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement extra-financier. Typiquement, il y a des sujets de sécurité économique sur lesquels on travaille avec le CICE à Bercy, avec le SGDSN qui est également un service de la Première ministre. Des questions de diplomatie économique, de diplomatie scientifique, de soutien à l'exportation, d'attractivité des talents.
Alors, on va demander de couper les micros, s'il vous plaît. Voilà, merci.
Et donc, un ensemble de dispositifs qui sont dans les ministères, qui sont dans les opérateurs de l'État, mais qu'il convient de coordonner. Ça veut dire que tous ces efforts-là, les efforts du plan France 2030, mais aussi ce que les ministères portent en propre, que tous ces aspects-là, tous ces efforts-là aillent dans la même direction, qui est de mettre la France sur la carte mondiale des technologies quantiques. Autant sur certaines technologies numériques, on peut considérer qu'aujourd'hui, on est plutôt sur le soutien à la demande, c'est-à-dire qu'il y a des offres existantes dans l'IA, il y a des offres existantes dans la cybersécurité, et l'objectif, c'est l'adhésion donc du tissu industriel à ces technologies-là et de l'appropriation, autant sur les technologies quantiques, au-delà de cet aspect qui reste présent, il y a une offre technologique à développer, et les acteurs français n'ont pas à rougir. Il y a de bonnes chances que les acteurs français aient leur place dans l'échiquier mondial de l'offre technologique dans le quantique.
Donc, une tour de contrôle, d'une certaine manière, pour qu'il y ait un pilote dans l'avion. Évidemment, c'est des objectifs très ambitieux. Alors, moi, j'aime toujours dire, effectivement, que la France n'a pas du tout à rougir de sa place dans le numérique. On dit souvent que des grands géants américains proposent beaucoup de choses et que donc, sur certaines technologies, on est un peu en arrière de la main. Dans le quantique, ce que j'ai compris, et vous avez organisé récemment, c'était le 30 mars dernier à Paris, une grande conférence pour faire le point sur la stratégie nationale, justement. J'ai compris, lors de cette grande conférence, que la France, comme vous venez de le dire, n'a non seulement pas à rougir de sa place dans le quantique, mais potentiellement pour être bien placé sur le podium. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit tableau finalement de d'où ça vient? Peut-être que comme d'autres Français, moi je me réveille un peu en disant waouh, c'est magnifique, mais il y a certainement un terreau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quel est-il ce terreau et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on pourrait je veux dire être parmi les leaders de cette technologie qui paraît pourtant si complexe?
Alors, les technologies quantiques, aujourd'hui, on les a déjà autour de nous. Il y a eu des découvertes au début du XXe siècle qui ont donné lieu à ce qu'on appelle les technologies quantiques 1.0, qu'on peut résumer à travers deux innovations majeures, le transistor et le laser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un appareil autour de nous qui n'utilise pas l'innovation qu'est le transistor, tous les appareils électroniques. Toutes les télécommunications, notamment fibrées, utilisent des technologies type laser. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les technologies 2.0. Les trois éléments pour différencier ce qu'on avait comme technologie quantique au XXe siècle et ce qu'on commence à apprivoiser aujourd'hui, il y a trois éléments concrets. Le premier, c'est que les technologies quantiques 1.0, ce sont des technologies où on traite les particules par train de particules. Ça veut dire que vous appliquez un courant à un transistor, vous avez plusieurs électrons qui passent. Vous appuyez sur un bouton d'un laser, vous avez plusieurs photons qui passent. Dans les années 70, on a réussi à piéger un atome unique. Un peu plus tard, un électron unique. Ensuite, on a réussi à produire des photons uniques. Donc, c'est la premier élément, c'est que on maîtrise les quantas un par un. Et une fois qu'on les maîtrise un par un dans un environnement contrôlé, il y a des propriétés contre-intuitives qu'on commence à manipuler, que sont l'intrication. C'est ce que a montré l'expérience d'Alain Aspect. Ça veut dire que deux particules très éloignées l'une de l'autre qui partagent le même destin.
Oui, alors ça c'est formidable. On a eu la chance d'assister à une présentation le 30 mars dernier d'Alain Aspect qui nous a fait, en tout cas pour moi je me mets dedans, une présentation qu'il a dit être le quantique pour les nuls, donc j'en faisais partie, je le reconnais humblement, mais sa démonstration était extrêmement intéressante. Vraiment en deux mots, parce qu'on va pas faire un cours de physique quantique ici, mais qu'est-ce que c'est que cette intrication? Est-ce qu'on peut trouver des espèces de métaphores ou quelque chose qui fasse comprendre à nos auditeurs, finalement, c'est quoi cet état de la matière qui est assez surprenant et dont on va pouvoir tirer des usages non moins intéressants?
Alors, une image que j'aime bien utiliser, c'est le fait de lancer une pièce de monnaie. Et là, une chance sur deux de tomber sur pile, une chance sur deux de tomber sur face. Je lance deux pièces de monnaie. Elles ont toutes les deux également une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face. Si les deux pièces de monnaie étaient intriquées, elles auraient toujours une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face. Par contre, elles tomberaient forcément toutes les deux sur la même face.
Donc une sorte de destin mêlé, comme si elles avaient un espèce d'ADN qui les menait immédiatement et forcément à faire exactement la même chose au même moment.
C'est exactement ça l'image. Et ça ouvre quelque part des nouvelles perspectives dans le calcul, dans les communications et dans la métrologie. Dans le calcul, ça nous ouvre un espace de recherche mathématique qui nous permet de résoudre des problèmes aujourd'hui qu'on considère inaccessibles. Donc, il ne s'agit pas simplement d'accélération. Aujourd'hui, on a des ordinateurs qui, tous les 10 ans, sont 1000 fois plus puissants. Ce n'est pas une simple accélération. C'est vraiment des problèmes qu'on considère que, à l'échelle humaine, sont inaccessibles. On sait les calculer, mais ça prendrait quelques milliers d'années à faire calculer. Ça nécessiterait un nombre de transistors qui avoisine le nombre de particules dans l'univers. Bref, qui sur le papier est faisable, mais en pratique irréalisable. Ça nous ouvre des champs des possibles dans ce type de problème de simulation. Je prends un exemple simple. Dans la chimie, aujourd'hui, la découverte d'un nouvel processus industriel basé sur des réactions chimiques, c'est beaucoup de découvertes inopinées, d'essais et erreurs. L'idée d'utiliser le calcul quantique, c'est que ce soit prédictif. Ça veut dire que je souhaite avoir tel résultat de réaction. Quels sont les produits que je mets en place pour obtenir cette réaction-là de manière prédictive, de manière calculatoire? Aujourd'hui, ce sont des calculs que ni demain, ni dans 20 ans, on ne pourra faire, y compris sur des supercalculateurs. Dans le domaine de la métrologie, ça ouvre également un champ des possibles aujourd'hui inimaginable. Vous imaginez mettre un capteur quantique dans un avion et vous pouvez décoller à Paris, atterrir à New York avec une précision de 10 mètres sans avoir besoin de vous repositionner par rapport à un satellite. Maintenant, vous pourriez faire ça au niveau d'une mine également. Donc, vous continuez à naviguer, vous savez exactement où vous êtes sous terre, mais sans avoir de recalage par satellite, vu qu'il n'y a pas de signaux satellites, sous la mer, dans des environnements hostiles. Ça a également des applications dans le médical. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la magnétoencéphalographie. Ils sont des appareils d'imagerie médicale au niveau du cerveau très précises de l'activité cérébrale. Aujourd'hui, pour en fabriquer une, vous commencez à mettre la machine et ensuite vous construisez l'hôpital autour. Tellement c'est compliqué, tellement ça nécessite des conditions particulières avec des capteurs quantiques donc à base de diamants, des matériaux finalement tout à fait accessibles. Vous pourriez avoir le même type d'imagerie à l'arrière d'un camion. Donc, vous imaginez ce que ça peut apporter comme application.
Donc, ce que je trouve très intéressant, effectivement, c'est que vous nous expliquez que on est un peu les monsieur et madame Jourdain du quantique, c'est-à-dire qu'en fait, on en fait déjà sans le savoir, d'une certaine manière. On a déjà autour de nous des objets qui viennent de cette physique quantique. Ce que je comprends aussi, c'est que finalement, les expériences d'Alain Aspect ont permis de faire un bond dans notre compréhension. Et je comprends que, effectivement, comme vous le dites très bien, avant, on devait traiter des paquets ou des trains. Enfin, je trouve ça très imagé et très, très accessible comme image. Et maintenant, on passe à la maîtrise. Alors, comme vous dites, dans cette expression assez concise, on passe. En fait, c'est plus compliqué que ça, si je comprends bien. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui en France qui se développent autour de cette maîtrise de la particule. Et pour stabiliser ces particules, il faut beaucoup de technologies sous-jacentes. Alors, peut-être que je ne sais pas si je pose les questions dans le bon ordre, mais je vois que, je ne sais pas s'il y a une intrication quantique, mais il y a une intrication des technologies. C'est-à-dire que pour arriver finalement à cette maîtrise quantique, non seulement il faut des chercheurs absolument géniaux comme Alain Aspect et son équipe, hein, parce qu'il a rendu d'ailleurs tout à fait un coup de chapeau tout à fait clair au fait que c'était un travail collectif, sa découverte. Mais non seulement il faut des chercheurs comme ça, mais il faut aussi ces briques technologiques initiales. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que finalement, puisqu'on sait maîtriser l'entité initiale, puisqu'on voit qu'il y a des sujets dans lesquels le quantique pourrait faire des miracles, pourquoi ça y est, on n'y est pas déjà? Qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi le petit truc qui fait que c'est encore en voie de progression?
Alors, quand on dit qu'on maîtrise ces quantas, on les maîtrise dans un environnement de laboratoire bien particulier dans un environnement maîtrisé. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour que ces propriétés bizarres émergent, on lutte tout le temps contre la nature. Donc, première chose, on commence à aspirer tout l'air qu'il y a autour pour avoir un vide quasi absolu. Ensuite, on refroidit à des températures inférieures, plus basses que la température du vide intergalactique. D'ailleurs, pour l'anecdote, le record de froid dans le monde, il s'est passé en France, à Grenoble, même pour être plus précis. Donc, c'est là où on a atteint la température la plus basse jamais enregistrée, à l'Institut Néel, donc au CNRS. Et donc, on lutte tout le temps contre des éléments perturbateurs pour espérer avoir le qubit, ou en tout cas l'information quantique, vivre quelques microsecondes. Et donc, pour faire cela, on a besoin de cryogénie, on a besoin d'enceintes à vide, on a besoin d'électronique bas bruit, on a besoin de fibres optiques particulièrement performantes. Donc, un ensemble de technologies tout à fait classiques, mais dont les caractéristiques, dont les niveaux de performance, vont au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire donc dans notre environnement habituel. Et donc, on a plein de PME, plein d'ETI en France qui ont ces technologies-là. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de sécuriser également la supply chain de l'ensemble des technologies habilitantes ou capacitantes au développement des technologies quantiques, toutes celles que j'ai citées, notamment parce que il ne faut pas se leurrer, ce sont des technologies qui vont disrupter un certain nombre de secteurs économiques, y compris souverains. Et donc, le premier qui y arrivera ne voudra pas partager les fruits de sa réussite. Donc, il nous faut également, nous, sécuriser l'accès à ces technologies-là. Et quand je dis qu'on n'a pas à rougir, c'est qu'on a à la fois les scientifiques, on a les PME qui vont bien, et on a les grands groupes qui commencent à s'investir dans les cas d'application et déployer leurs technologies développées dans le secteur de la défense, notamment vers les technologies quantiques. Et on a également un tissu de financement de la deep tech qui est non négligeable. Aujourd'hui, l'investissement dans le quantique, la France, les startups françaises se classent à quasi égalité avec le Royaume-Uni autour des 300 millions depuis la création des différentes entreprises. Devant la France et le Royaume-Uni, il y a le Canada et il n'y a que le Canada et les États-Unis. Donc, on n'a vraiment pas à rougir en termes de tissu de financement de la deep tech en France également.
Donc, c'est plein de bonnes fées hein, qui se penchent visiblement sur le bébé quantique, une conjonction de planètes intéressante. Donc, ces PME qui ont des technologies habilitantes, peut-être qu'elles se réveillent un jour en réalisant que quand elles sont capables de faire du grand froid pour X ou Y raison, en fait, elles intéressent tout le développement du quantique. Alors, je vois effectivement... si je ne fais pas erreur, que Monsieur Alain Aspect était donc professeur à l'Institut d'optique à Paris-Saclay, c'est ça ?
C'est ça.
Tout d'un coup, moi, je redécouvre le fait qu'on avait une école d'optique, que la maîtrise du photon devient maintenant un art très recherché. Comment est-ce que dans la stratégie vous avez intégré et qu'est-ce que vous avez pensé autour de justement comment est-ce qu'on protège, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces entreprises elles aient envie de rester en France, qu'elles ne soient pas rachetées par des prédateurs qui voient effectivement la richesse potentielle de ces technologies habilitantes et est-ce qu'on est déjà en mesure de leur proposer justement soit par des appels d'offres que vous faites, soit peut-être par des marchés déjà qui s'ouvrent, l'envie de rester. J'ai trouvé dans la présentation que vous avez fait le 30 mars dernier, qu'il y avait quelque chose qui se jouait en France, qu'on avait eu du mal à faire sur d'autres technologies. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, de cette soupe primitive, de cet engrenage magique que vous avez réussi à mettre en place?
Donc, effectivement, pour que ces startups et ces PME aient l'envie de continuer à se développer en France, il y a besoin d'un environnement favorable. Il y a un environnement de financement dont j'ai parlé, mais aussi au niveau de l'État, on ouvre un certain nombre d'appels à projets, mais également des appels d'offres pour équiper des centres de calcul par des machines de calcul quantique. Donc, on fait ça en coordination avec la Commission européenne. L'objectif est d'avoir un effet de levier européen également sur les procédures d'achat. Donc, on a une première machine en cours, dont la procédure d'achat s'est terminée et en cours de livraison au centre de calcul du CEA qui est de la société Pascal. D'autres appels d'offres sont en cours de préparation et donc c'est une trajectoire qui va se déployer jusqu'à 2025, jusqu'à 2026. En termes d'équipement, il faut savoir que l'Europe, en tant que telle, est le deuxième marché du calcul quantique après les États-Unis et ils sont à peu près au même niveau. Donc aujourd'hui, ça se structure entre l'entreprise commune EuroHPC et les différents États membres dont la France est l'un des principaux contributeurs, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, la Finlande, l'Italie. Et on est clairement dans cette dynamique de d'utiliser la commande publique comme levier pour soutenir donc les différentes entreprises.
Non, je pense que effectivement, moi, je suis admirative et c'est quelque chose peut-être qu'on aimerait trouver dans d'autres domaines technologiques. Ce dialogue entre les chercheurs, les laboratoires, les entreprises, l'État, je trouve assez admirable. Je pense que c'est aussi quelque chose dont on peut tirer peut-être un enseignement pour d'autres domaines actuels ou à venir. Parce qu'effectivement, tout est un peu lié à ce que je vois et ce que je comprends. On nous dit souvent en France, aux États-Unis, la proximité entre les chercheurs entrepreneurs, les fonds d'investissement fait qu'il y a cet environnement très favorable à la création finalement d'entreprises dans le domaine technologique. J'ai l'impression que là, en quantique, on y est. En fait, il y a vraiment cette relation entre les différents acteurs qui me paraît assez fluide. Vous l'avez fait, je pense, la démonstration. Le 30 mars dernier, tout le monde parle à tout le monde. On peut être investisseur, on peut être chercheur, on peut être entrepreneur. Tout le monde se parle, tout le monde a envie d'avancer dans le même sens. Et enfin, j'espère que ceux qui participent à vos travaux en sont conscients. C'est vraiment un exemple, je pense, pour plein de domaines technologiques.
Alors peut-être que ce qui peut aider effectivement dans cet écosystème quantique, c'est que c'est un écosystème assez petit. Tout le monde se connaît, y compris les investisseurs, y compris ceux qui sont en entreprise. À un moment donné, ils ont été à l'Institut d'optique, ou bien au CNRS, ou bien au CEA. Donc tout le monde se connaît, et c'est ça qui crée finalement cette facilité de connexion entre les chercheurs, les investisseurs et les startups. Et ce que nous, on a encore à soutenir au niveau de l'État, c'est de faire prendre conscience de cet écosystème quantique, qu'il y a des briques technologiques classiques dans les territoires, dans les PME françaises, qui peuvent les aider. C'est ce qu'on a commencé à faire sur l'aspect de sur les aspects cryogénie. C'est ce qu'on a commencé à faire également sur les aspects câblage. On sous-estime ces technologies. On parle beaucoup de technologies quantiques, mais on ne pourra pas développer des technologies quantiques si on n'a pas des câbles coaxiaux à très faible perte. Et donc, plutôt que d'aller regarder exclusivement ce que font les Japonais, les Néerlandais, les Canadiens, les Américains, on crée à travers des appels à projets ciblés, justement entre une start-up et des PME classiques, l'opportunité de discuter avec le tissu industriel existant français et à ces startups-là de se rendre compte qu'il y a des technologies qu'elles peuvent utiliser et donc un tissu industriel sur lequel elles peuvent s'appuyer. Elles n'ont pas forcément vocation à développer toutes leurs technologies en interne, mais également à s'appuyer sur des technologies existantes et des industriels bien établis.
Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le chat, donc je remercie beaucoup à tous ceux qui les ont posées. Donc, on va venir parce que c'est plutôt, des questions effectivement sur les applications et les usages. Donc, maintenant qu'on a, grâce à vous, mieux compris finalement qu'est-ce qui était finalement le terreau dans lequel tout cela avait pu progresser en France, on va se tourner un peu sur finalement qu'est-ce que va faire le quantique pour nous. Ou qu'est-ce qu'on espère qu'il va faire, hein, puisque c'est pas encore peut-être complètement opérationnel. Il y a beaucoup de choses concrètes déjà toujours aujourd'hui, vous l'avez dit, mais aussi des promesses. Alors il y a une question qui nous demande effectivement, je la lis. Hein, je crois que comprendre que les ordinateurs quantiques ne sont pas généralistes. Quels sont les domaines où ils seront le plus utiles? Alors est-ce qu'effectivement un ordinateur quantique il va être dédié à quelque chose? Et vous nous avez expliqué le 30 mars dernier qu'il y a plusieurs technologies qui sont concurrentes, effectivement, mais c'est pas parce qu'elles sont concurrentes qu'une seule émergera, car peut-être que plusieurs seront utiles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette particularité?
Tout à fait. Effectivement, les ordinateurs quantiques ne seront jamais des ordinateurs généralistes. Ça veut dire que de la même façon qu'on a vu sur la dernière décennie, une transition de l'ordinateur monolithique, donc avec plusieurs processeurs en parallèle pour avoir une certaine puissance de calcul, on a de plus en plus d'accélérateurs, ce qu'on appelle des accélérateurs. Donc, ce sont des processeurs spécialisés dans certaines tâches particulières. Aujourd'hui, le supercalculateur le plus puissant, qui s'appelle Frontier, qui est installé au DOI américain, il a une grande partition de processeurs graphiques qui sont des processeurs spécialisés dans le calcul mathématique. Il y a une entreprise britannique également qui développe des processeurs spécialisés dans l'IA, qui accélèrent les algorithmes d'IA. Et les ordinateurs quantiques ne vont être que des coprocesseurs qui vont accélérer des types de calculs bien particuliers. Donc, les cas d'application, on peut les catégoriser en deux ou trois catégories. Il y a les problèmes d'optimisation complexes. Ça veut dire qu'on a très peu de données en entrée. Par contre, un traitement complexe, intermédiaire complexe, et très peu de données de sortie. Typiquement, les problèmes d'optimisation, les problèmes de logistique, les problèmes d'organisation du dernier kilomètre dans la logistique, ou bien du remplissage du camion. Quelle est la manière la plus efficace de remplir l'arrière d'un camion, par exemple, qui sont des problèmes de logistique bien particuliers, bien précis, sur lesquels, un jour, je dis bien un jour, les ordinateurs quantiques apporteront quelque chose. Pourquoi un jour? Parce qu'aujourd'hui, le hardware n'est pas encore suffisamment performant. Donc, ce que j'incite les industriels des secteurs qui seront disruptés par les technologies quantiques ou qu'on estime pouvoir être disruptées, c'est de tester sur des cas d'usage à petite taille. Ça veut dire qu'il faut quelque part, c'est une démarche qu'on voit assez régulièrement. Donc, on ne prend pas le problème dans sa taille réelle, on prend un problème simplifié et on compare le monde classique au monde quantique avec les machines d'aujourd'hui, ce qui nous permet d'anticiper le jour où les machines seront suffisamment puissantes, ce que ça pourra donner. Et sur les cas d'optimisation, par exemple, on a un cas concret, et c'est une grande fierté pour nous, c'est un cas d'application qui a été développé l'année dernière, en fin d'année, par la société Pascal, le Crédit Agricole et la start-up espagnole Multiverse Computing, qui ont démontré que avec la machine de Pascal et un algorithme particulier, l'optimisation du portefeuille financier sur une machine quantique est à un niveau comparable de ce que le Crédit Agricole fait sur ses data centers. Donc quand on dit à un niveau comparable, c'est 2022. Donc dans 2-3 ans potentiellement, on aura peut-être un avantage quantique opérationnel sur ce cas d'application particulier. Ensuite, il y a d'autres cas d'application dans la recherche de nouvelles molécules. Alors, on n'est pas encore à concevoir des nouvelles molécules, mais plutôt dans une liste, dans une base de données de molécules existantes, faire du targeting, faire du ciblage de molécules particulières. Ça, c'est également un cas d'application que regarde la startup Qubit Pharmaceutical dans le médical, par exemple. On va avoir également donc des cas d'application dans tout ce qui est calcul scientifique. Si vous imaginez, si vous avez des cas, des applications où vous avez de la beaucoup de mathématiques à faire, beaucoup d'algèbre linéaire, dans quelques années, mais là pour le coup, on est plutôt sur la fin de la décennie, on pourrait avoir une accélération exponentielle de certains de ces calculs.
Ça vient vite quand même, la fin de la décennie. oui, ça vient vite. J'entends votre...
C'est pas dans les 2-3 ans, en tout.
D'accord. Alors, j'entends votre conseil, c'est de jouer avec le quantique, enfin, de tester oui. des choses.
Alors, on a mis en place pour cela donc un programme d'acquisition de machines qu'on met à disposition des utilisateurs, qu'ils soient académiques ou industriels. Il y a une première expérimentation qui a été faite. Donc, c'est un programme qui est opéré par le GENCI. Le GENCI, donc, c'est un opérateur de l'État et c'est l'acronyme de Grand Équipement National de Calcul Intensif, qui opère tous les supercalculateurs publics pour la recherche scientifique. Et aujourd'hui, on leur a confié la mission d'opérer également des machines de calcul quantique. Et qu'ils sont en train de mettre en place un programme justement de co-développement entre une start-up et une PME. Donc, des financements issus de la stratégie nationale quantique, mais également de l'Île-de-France, de la région Île-de-France. Et c'est un dispositif qu'ils sont en train de discuter avec les collectivités territoriales au niveau de l'ensemble du territoire pour l'étendre à l'échelle nationale. C'est dans ce cadre-là que le cas d'application avec le Crédit Agricole a été développé. Et donc, permettre à l'ensemble du tissu économique d'accéder à ces machines, de tester des cas d'usage et de voir ce que ça pourrait apporter ou disrupter au niveau de son secteur. C'est un dispositif qu'on a l'intention d'élargir à l'échelle nationale et ne pas le limiter exclusivement donc à l'Île-de-France.
Alors, merci beaucoup pour cette information et merci beaucoup pour cette façon de penser, la manière d'accompagner les entreprises dans la découverte finalement et de leur permettre de tester. Enfin, nous, on est très désireux hein, de se faire l'écho de ces possibilités, hein, de publier et de mettre en valeur ces possibilités. Je pense que c'est très 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 utile. Alors, vous parliez de disruption, c'est quelque chose qui tout d'un coup nous intéresse, hein, parce qu'on a toujours le souhait que nos entreprises puissent appréhender les technologies avant qu'elles ne les disruptent. Donc, je comprends que ça va changer quand même beaucoup de choses dans les entreprises qui ont recours donc à des besoins de calcul intensif. C'est pas forcément elles qui vont être disruptées, mais est-ce que c'est pas plutôt le fait que la manière de travailler qu'elles ont aujourd'hui va être bouleversée par la capacité justement d'accélérer ou de faire des calculs qui n'étaient pas possibles. Est-ce que c'est finalement leur propre capacité de croître et de se développer sur des nouveaux marchés qui va être ouvert? Peut-être que plutôt que disruption, on pourrait dire une capacité d'innovation déployée, ou est-ce qu'il y a effectivement potentiellement, moi j'entends quelquefois dans le mot disruption une menace, est-ce que certains secteurs sont menacés par le quantique ou c'est plutôt comme dans l'IA finalement un outil à saisir parce que c'est quelque chose qui va leur permettre d'ouvrir de nouvelles frontières?
Alors effectivement, c'est un outil à saisir et il y aura disruption s'il n'est pas saisi.
D'accord.
C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre mon propos. Vous imaginez que vous avez un cycle de développement d'un nouveau produit qui habituellement prend 9 mois, notamment par des cycles d'essai-erreur. S'il y a une nouvelle technologie qui permet de raccourcir ce cycle-là à 3 mois, à 2 mois, vous voyez bien que si vos compétiteurs s'en saisissent, mais pas vous, potentiellement vous êtes en fragilité. Et inversement, si vous vous en saisissez, mais pas vos compétiteurs, vous êtes en situation de force.
Non, mais c'est très intéressant puisque je vais attraper l'autre question qui attend dans le chat et je remercie la personne qui l'a posée de sa patience donc puisque je l'ai bien vu. Effectivement, vous parlez de cette finalement course à la suprématie d'une certaine manière. C'est un mot qui est beaucoup utilisé par les journalistes et je crois qu'il n'est pas tout à fait exact entre guillemets, ou peut-être que vous allez avoir besoin de le détailler. Mais ce que je comprends, c'est comme dans toute capacité technologique nouvelle, le premier à arriver a un avantage compétitif et évident. En termes de communication aussi, notre auditeur fait référence, effectivement, prend une comparaison en disant finalement, est-ce que le fait d'arriver les premiers à maîtriser le quantique ne va pas faire un peu le même effet que ceux qui, les premiers, ont maîtrisé finalement le nucléaire, et y compris sa partie, je veux dire, agressive, hein, sous forme de la bombe. Est-ce que finalement, la capacité à maîtriser le quantique est quelque chose de très clivant? Est-ce que cette relation internationale, vous avez parlé de votre rôle de diplomatie, vous gêne? Ou est-ce que finalement on arrive à séparer un peu les enjeux de souveraineté de type militaire et les enjeux industriels? Et est-ce que vous avez un message finalement aussi un peu apaisant en disant aux entreprises, non mais vous inquiétez pas, finalement, whatever, vous pouvez progresser en quantique et sans vous préoccuper du fait que si un premier pays dit maîtriser le quantique, ça sera mort pour vous. Enfin, je veux dire, voilà, dans quelle démarche on peut se placer en disant que ça vaut la peine de découvrir, ça vaut la peine de tester, ça vaut la peine de progresser, parce que voilà, on va pas se prendre une bombe sur la tête, entre guillemets, quantique, de la part d'un pays plus ou moins ami d'ailleurs.
C'est tout à fait cela. Effectivement, le premier, je fais écho à ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est le premier qui maîtrisera le développement de l'ordinateur quantique probablement ne voudra pas partager les machines les plus puissantes avec le reste du monde pour garder une certaine avance. Et c'est pour cela qu'il y a une stratégie française qui s'inscrit dans un cadre européen. Aujourd'hui, si on regarde les niveaux d'investissement qui sont faits en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, par la Commission européenne, la sphère publique européenne est le premier investisseur devant les États-Unis et la Chine. Il y a un bon espoir que l'Europe puisse maîtriser elle-même les technologies quantiques, le calcul quantique, et donc qu'on puisse avoir une sécurité de l'accès à ces technologies-là. Il y a une prise de conscience politique au niveau des États et au niveau de la Commission européenne du besoin de maîtriser ces technologies-là nous-mêmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur la capacité de pouvoir accéder à ces technologies-là. Et honnêtement, aujourd'hui, il y a une certaine avance. Alors certes, petite, on va dire de 2, 3, 4 mois, d'un point de vue scientifique et technologique des startups européennes par rapport aux startups américaines, mais un retard d'un point de vue financement. Parce que là où les startups européennes se financent à coût de dizaines de millions, les startups américaines se financent à coût de centaines de millions.
D'accord.
Alors, on peut avoir une avance technologique, mais à un moment donné, s'il y a l'argent peut beaucoup aider à rattraper cette avance.
Alors, je lance un appel. Hein. Si des investisseurs entendent votre appel, Neil, qu'ils n'hésitent pas à se manifester pour soutenir la stratégie nationale, mais aussi peut-être en région. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites à ce webinaire qui viennent des MEDEF en territoire. Il y a des régions qui ont eu des politiques aussi très dynamiques localement pour soutenir des PME, hein, que vous avez citées, pour soutenir aussi le tissu je veux dire, faire un catalyseur. On pense bien sûr à la région Rhône-Alpes, puisque vous avez parlé de Grenoble, mais aussi peut-être d'autres parties de la France qui ont en leur sein ce terreau de start-up qui détiennent une partie de la réponse. Donc je pense que ça peut être intéressant, effectivement, que certaines régions se penchent avec des politiques ad hoc sur cette thématique. Vous nous direz si on peut aider en quoi que ce soit à ce sujet. J'aurais une autre question qui est aussi issue de la précédente. C'est finalement un des avantages de la France, c'est d'avoir une école mathématique et des mathématiciens chevronnés. En quoi finalement aussi cette technologie menace nos communications? Beaucoup ont parlé du fait qu'il fallait parler de cryptographie, vous allez me corriger hein, si je prends les mauvais mots, hein. Post-quantique, je comprends qu'effectivement, grâce à cette rapidité de calcul, on pourrait casser des chaînes de chiffrement beaucoup plus facilement. On est aujourd'hui au MEDEF très mobilisé sur les questions de cybersécurité, puisque malheureusement, beaucoup de nos membres d'abord, hein, des MEDEF territoriaux et ou des fédérations ont subi des attaques, mais aussi leurs propres membres, des entreprises. On voit que le risque descend dans l'échelle de taille de nos structures. Comment est-ce qu'on on aborde cette, ce sujet qui est crucial?
Tout à fait. L'une des motivations, il ne faut pas s'en leurrer, qui ont poussé au développement des ordinateurs quantiques, c'était l'algorithme découvert par le mathématicien américain Peter Shor dans les années 90, qui sert à factoriser les grands nombres, donc trouver les nombres premiers qui factorisent des grands nombres, et toute la cryptographie moderne est basée sur la difficulté de trouver les facteurs premiers d'un grand nombre et la facilité de vérifier les facteurs premiers. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple simple, si on vous dit 3 fois 7, vous répondez 21. Mmh. Si je vous dis 21, vous prenez une fraction de seconde pour me dire 3 fois 7. Maintenant, on élargit ça à des grands nombres. C'est facile de faire le produit de deux nombres et de vérifier qu'il est égal au résultat. Si je vous donne exclusivement le résultat, vous aurez du mal à trouver les deux nombres qui en sont issus. Et toute la cryptographie moderne est basée sur ce principe-là. Ce qu'a fait Peter Shor, c'est qu'il a découvert un algorithme utilisant les ordinateurs quantiques qui permet de faire ça de manière très rapide ou de manière accessible à l'échelle humaine. Vous comprenez que certains secrets ont vocation à être gardés très, très, très longtemps. Donc certains secrets relatifs à la sécurité nationale, mais également des secrets d'affaires, des secrets de recettes, on va dire, industrielles, qui ont besoin de garder cette sécurité-là sur le long terme. Donc, tout en développant ces ordinateurs quantiques au-delà de cet aspect-là, les États se préparent à sécuriser donc les réseaux de communication, c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Donc, c'est un shift, c'est une transition vers des algorithmes, on reste sur le même principe. Oui. Un problème mathématique facile à vérifier, difficile à résoudre, mais pour lequel il soit difficile à résoudre, y compris pour des ordinateurs quantiques. Donc il y a eu un concours fait par le NIST américain ouvert en 2016, dont les résultats sont connus depuis l'année dernière, et donc on a un standard international, ou qui deviendra international, de cryptographie résistante aux ordinateurs quantiques. Et il se trouve que cet algorithme-là est un algorithme dont la paternité est partiellement issue des laboratoires et des entreprises françaises, et qui est par ailleurs bien maîtrisé par les équipementiers de cybersécurité français.
C'est passionnant, ça. Ah, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, du coup, on est là, parce que récemment, nous avons parlé de la normalisation et de l'implication des entreprises françaises dans la normalisation numérique. Donc là, vous nous remettez un petit peu de baume au cœur en disant que finalement, là, on a bien participé à ce nouveau standard.
Tout à fait.
Bon, c'est passionnant, je vous remercie. Je vois que l'heure qui tourne, donc n'hésitez pas aussi en ligne à poser d'autres questions. Hein. Il y a de nombreux sujets à explorer. On n'aura pas fait tout le tour en cette matinée, hein, bien sûr, mais on va pas abuser de votre temps ni de celui de nos auditeurs. Est-ce que dans les 5-10 minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je vous ai pas interrogé et que vous aimeriez partager avec l'auditoire, des projets que vous voulez nous annoncer ou des choses qui sont en cours mais que vous n'êtes pas sûr que les entreprises connaissent, et puis on finira peut-être par un petit point d'agenda sur des dates que vous pouvez partager.
Je pense que mon principal message, c'est effectivement au niveau de chaque secteur de ne pas faire l'économie de vérifier quelles sont les applications ou les parties de la supply chain qui potentiellement pourraient être disruptées par le calcul quantique, et donc de s'y intéresser à travers les différents appels à projets qui sont ouverts à tout le monde par le GNCI, par l'ANR, par BPI France, et identifier donc les cas d'usage pertinents dans les différents secteurs. Je pense que c'est pour moi le principal message que j'adresse à l'industrie française.
Un message bien reçu et nous aussi on va en s'en faire l'écho, donc à ce moment-là on fera peut-être, je me tourne vers Charles que vous ne voyez pas à la caméra mais qui fait partie de l'équipe numérique, peut-être va faire un petit article effectivement de récapitulatif. Je me souviens qu'Alain Aspect a dit le 30 mars dernier lors de cette journée dédiée au déroulé de la stratégie qu'un ordinateur quantique, soit ça savait faire les calculs d'aujourd'hui, mais avec 10 fois moins d'énergie, soit ça savait faire des calculs qu'on ne savait pas encore faire aujourd'hui. Donc, il y a aussi tout cet aspect gain environnemental qui l'a souligné en disant il ne faut pas oublier que le numérique, oui, ça, on y travaille aussi ici au MEDEF. Hein, on considère que la numérisation des entreprises, c'est à la fois un défi de performance, mais c'est aussi un défi d'empreinte et aussi un défi de sécurité. Donc, il y a vraiment tous les aspects de cette numérisation que l'on souhaite couvrir. La capacité aussi à appréhender des calculs qui soient moins gourmands en énergie, plus sobres d'une certaine manière, mais qui permettent quand même de faire des calculs extraordinaires. Nous, on est assez tech positive hein, ici au MEDEF, enfin moi, ça, certainement, je le suis. Donc ça nous donne des perspectives aussi peut-être de, comment dire, de répondre aux défis qui nous est donné et aussi aux critiques qui nous sont adressées sur le côté très gourmand en énergie de l'informatique et des nouvelles technologies. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que les entreprises peuvent utiliser comme argument, hein, parce que peut-être que nos auditeurs ont besoin d'arguments pour convaincre leur direction de faire ces tests, c'est de dire finalement, peut-être qu'on pourra découvrir des nouvelles choses, mais peut-être qu'on pourra faire juste les mêmes choses en étant moins gourmand. Et aujourd'hui, l'énergie est quand même un sujet un tout petit peu d'actualité dans nos participants.
Tout à fait, effectivement, sur les problèmes sur lesquels l'ordinateur quantique, en tout cas que les ordinateurs quantiques peuvent adresser, parce que ça reste des classes de problèmes bien particulières, la consommation énergétique d'un ordinateur quantique, au-delà de simplement la génération de froid ou l'isolation par rapport à l'environnement, elle est nulle. En fait, la physique quantique est réversible. Elle fait qu'une fois que vous avez atteint ce niveau d'isolation de votre environnement, ça ne consomme rien. Et donc, la seule consommation qu'on a au niveau d'un ordinateur quantique, c'est ce qu'il faut pour maintenir le froid et l'isolation par rapport à l'environnement. C'est pour ça qu'on passe de quelques mégawatts à quelques kilowatts.
Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et donc effectivement, il y a vraiment une perspective extrêmement intéressante d'avoir la capacité de continuer à progresser, je veux dire scientifiquement, dans un environnement qui consomme rien en fait. Bah écoutez, merci pour cet éclairage parce que là, je n'avais pas noté que c'était à ce point performant. Alors peut-être pour finir quelques dates. Ah, il y a une autre question.
Oui, il y a deux questions sur le chat.
Alors, sur quel site faire une veille sur ces sujets? Bah voilà, ça va très bien avec la fin de notre conversation, Naël.
Alors, on a effectivement, on est en train de préparer un site internet de la stratégie nationale quantique, donc qui va être du quantique.gouv.fr. On espère pouvoir le publier d'ici la fin de l'été, qui regroupera à la fois l'actualité des appels d'offres, des appels à projets, mais aussi l'actualité de manière plus générale de qu'est-ce qui se passe au niveau national. On a également mis en partenariat avec l'usine digitale, donc une actualité mensuelle de ce qui se passe dans le quantique en France. Et donc tous les mois, nous avons une brève coordonnée entre le GPI et l'usine digitale qui rend compte de ce qui se passe dans le quantique en France aujourd'hui.
Très intéressant parce que ça répond, je pense aussi, j'espère en tout cas, à notre auditeur, comment une PME peut se positionner. Je pense que cette typologie de support va permettre aux entreprises de voir les projets et de pouvoir se manifester.
Tout à fait.
Quelques dates, vous m'avez dit qu'il y a des grands événements qui se profilent encore en France. La 30 mars, c'était un bel événement déjà, mais d'autres possibilités de suivre à distance, de participer, de s'informer. Qu'est-ce qui va se passer?
Le 13 juin, il va y avoir la conférence France Quantum, qui réunit les acteurs du quantique français, donc la veille de VivaTech. Fin mars sera organisée à Paris Quantum Business Europe, qui est une conférence dédiée aux entreprises intéressées aux technologies quantiques en Europe. et donc qui aura lieu pour la première fois à Paris également.
Eh bien, écoutez, c'est des événements qu'on relaiera avec plaisir dans notre newsletter. N'hésitez pas à nous demander à être inscrits dans notre mailing list, d'ailleurs, au passage, pour tous ceux qui ne la recevraient pas. C'est ouvert à tous les adhérents du MEDEF. Donc, des événements, effectivement, qui font en général partie des informations que nous délivrons. Eh bien, il me reste à vous remercier beaucoup. Je remercie les participants. Je vous remercie pour votre présence. Ce podcast a été enregistré, donc vous pouvez le réécouter. Il sera rediffusé aussi dans notre newsletter pour tous ceux qui n'auraient pas pu participer ce matin. Merci infiniment. Puis j'espère que vous reviendrez d'une manière ou d'une autre au MEDEF pour nous donner des nouvelles de la stratégie. Et bravo pour ce que vous faites.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.